Bonjour, Historama, l'histoire d'un jour, nouvelle saison. Aujourd'hui, le 4 septembre 1870, la Troisième République est proclamée. Napoléon III est vaincu à Sedan le 2 septembre 1870. La dépêche de l'empereur est laconique. L'armée est défaite. N'ayant pu me faire tuer au milieu de mes soldats, j'ai dû me constituer prisonnier pour sauver l'armée. Il cède alors le commandement au maréchal Bazaine. Le lendemain, l'impératrice Eugénie reçoit la dépêche de Sedan de la main du ministre de l'Intérieur, Henri Chevreau. Déjà la nouvelle court dans Paris, où l'insurrection couve. Quoi qu'il arrive, proclame l'impératrice, qui assure la régence, les soldats ne doivent en aucun cas tirer sur le peuple. Le 4 septembre, à 1h du matin, Jules Favre monte à la tribune du corps législatif pour demander la déchéance de la famille impériale. À l'aube de ce beau dimanche estival, l'émeute secoue la capitale. À midi et demi, une délégation parlementaire demande à la régente de remettre le pouvoir exécutif à une commission de gouvernement. L'impératrice refuse en ces termes. L'avenir de notre dynastie ne compte plus pour moi. Je ne pense qu'à l'avenir de la France. Mon unique souci personnel est de remplir dans toute leur étendue les pouvoirs que mon rang et ma fonction m'imposent. Or, le plus clair de ces devoirs est de ne pas déserter mon poste. Quant aux représentants du pays, leur devoir me paraît aussi évident que le mien. Ils doivent ajourner leurs querelles de parti et se serrer autour de moi pour faire masse contre l'invasion. Ils tiennent le sort de la guerre entre leurs mains. Après plusieurs heures de discussion, elle semble infléchir sa position, mais il est bien trop tard. La foule force les grilles de la place de la Concorde et se rue dans le jardin des Tuileries. Constantino Negra, ambassadeur du Royaume d'Italie, et son collègue autrichien, Richard Clemens von Metternich, accourent au palais impérial. Ils pressent l'impératrice de fuir. Elle se coiffe d'un chapeau, revêt un léger manteau et quitte les Tuileries, suivie des deux diplomates et de Madame Le Breton, sa fidèle lectrice. Les fugitifs traversent les longues galeries du musée du Louvre. Par la section des antiquités égyptiennes, ils parviennent place Saint-Germain-l'Auxerrois. Les deux femmes vêtues de noir montent dans un fiacre. L'impératrice se rend chez son dentiste américain, le docteur Thomas Evans, qui la persuade de partir pour l'Angleterre. Heureusement, Eugénie possède un lot de passeports remis par le préfet de police en vue d'un éventuel départ. Pendant ce temps, la République est proclamée à l'Hôtel de Ville. Un gouvernement provisoire est constitué avec pour principaux ministres Jules Favre, Léon Gambetta, Adolphe Crémieux, Ernest Picard et Jules Simon. Il prend la dénomination de gouvernement de la défense nationale, avec à sa tête le général Trochu. L'impératrice est consternée, elle éprouve un sentiment de profonde trahison. Trochu, non, non, c'est impossible. Comment a-t-il pu passer du côté révolutionnaire, et cela après les protestations solennelles qu'il m'avait faites de fidélité et de dévouement à ma personne. Je ne peux pas y croire. Comment a-t-il pu nous trahir ainsi? Pas plus tard qu'hier matin, il m'a encore affirmé spontanément sur son honneur de soldat, sur sa foi de catholique et de Breton qu'il ne m'abandonnerait jamais, que quiconque voudrait m'atteindre devrait d'abord passer sur son cadavre. Le 5 septembre, le soleil n'est pas encore levé quand le landau du docteur Evans quitte l'avenue Malakoff et franchit la grille de la porte Maillot. L'impératrice a quitté Paris. À Mantes s'effectue un changement d'équipage qui est renouvelé à Évreux. Là, les fugitifs croisent des gardes nationaux qui rentrent chez eux au cri de « Vive la France, vive la République !» et aux accents de la Marseillaise. Le 6 septembre, après une nuit passée à l'auberge de la rivière Thibouville, dans la vallée de la Risle, l'impératrice gagne Lisieux par le train. La gare est située à moins d'un kilomètre. C'est donc à pied qu'elle rejoint la station. Le chef de gare lui jette un regard de haine. Assurément, il l'a reconnue, mais il ne dit rien. À Lisieux, la sortie de la gare s'effectue sans incident. Il pleut. Evans part à la recherche d'une voiture pour Deauville, où son épouse est en villégiature. Muni d'un parapluie, il parvient à faire entrer discrètement la souveraine dans l'hôtel du casino par une porte dérobée. Infatigable, il repart aussitôt pour Trouville. Il faut trouver un bateau. Sur le quai de la Marine, il avise un yacht d'une quinzaine de mètres, la Gazelle. L'embarcation appartient à Sir John Burgoyne, citoyen britannique. Le dentiste lui révèle la vérité de son projet. D'abord hésitant, le propriétaire du bateau accepte finalement d'accueillir l'impératrice déchue à bord. C'est dans un état navrant, trempée, couverte de boue des pieds à la tête, après avoir trébuché dans des flaques d'eau et des tas de sable, qu'elle atteint le yacht à minuit. Elle est accueillie par un punch bien réconfortant, préparé par Lady Burgoyne. Le 7 septembre, peu avant 7 heures, la Gazelle lève l'ancre pour l'Angleterre. Eugénie entame son exil au château de Camden, à Chillhurst, où Napoléon III et son fils ne tardent pas à la rejoindre. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama avant de retrouver la chronique Un jour, trois livres, la chronique littéraire préparée par Emmanuel. Nous retrouvons Angelo Branduardi avec un titre de 1975, La Lune.
La surprise. hommes.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire, un jour trois livres préparés par Emmanuel et que j'ai plaisir à vous présenter. Nous commençons avec Le pavillon des oiseaux de Clélia Renucci, c'est aux éditions Albin Michel. Dans la deuxième moitié du XVIe siècle, dans les jardins de la Villa Médicis, un pavillon orné de fresques d'oiseaux et de nymphes fut le décor des amours secrètes de Clélia Farnèse. Elle était la fille illégitime du cardinal Alexandre Farnèse, l'épouse du baron Cesarini et la maîtresse de Ferdinand de Médicis. Elle se voulait libre, même dans un monde d'hommes, mais elle a payé fort cher ce désir de liberté et d'indépendance et sa soif de culture. Elle fut la victime des complots et des cabales sous le couvert des ambitions des grandes familles romaines, puis par la suite obligée de supporter la tyrannie et la violence de son deuxième époux, Marco Pio de Savoie. Le pavillon des oiseaux de Clélia Renucci s'est publié aux éditions Albin Michel. Mais Madison Washington de Thierry Mougenest, excusez-moi, aux éditions Albin Michel. Voici l'histoire du premier esclave afro-américain à avoir mené la révolte contre l'esclavagisme. Madison Washington fut en effet le leader d'une rébellion d'esclaves, la première en Amérique, c'était le 7 novembre 1841 à bord du brick créole qui transportait 134 autres esclaves de Virginie pour les vendre à la Nouvelle-Orléans dans le cadre de la traite côtière des esclaves. Prenant le contrôle de la créole, ils ont ordonné que le navire soit acheminé vers Nassau, une colonie britannique. Le Royaume-Uni avait en effet déjà aboli l'esclavage en 1833. Malgré les protestations américaines, les Britanniques déclarèrent que les esclaves étaient des personnes libres en vertu de leurs lois et ont refusé les demandes américaines de retour. C'est donc la plus grande évasion d'esclaves des États-Unis, le tout avec un jeu politique pour le moins particulier mené par les Anglais aux Bahamas. Lui fut emprisonné à Nassau, mais l'essentiel des esclaves furent sauvés. Moi, Madison Washington, c'est signé Thierry Mougenest et c'est publié aux éditions Albin Michel. Et nous terminons cette chronique et par là même cette émission Historama avec « Vivre en ville » de Jonathan Sixou aux éditions du Cerf. Qu'on aime ou qu'on déteste vivre en ville, c'est un entassement de sites et de strates, de cases et de castes dans lesquelles chacun évolue, circule, se perd, se renie, disparaît, se révèle. Nous suivons l'auteur dans les jardins, les restaurants, les musées, les commerces, les églises et même les ascenseurs, le tout accompagné d'anecdotes, de références littéraires. Le présent s'entremêle avec le passé. À titre d'exemple, parmi bien d'autres anecdotes croustillantes, c'est ainsi qu'en 1961, à Saint-Denis, l'avenue Joseph-Staline fut rebaptisée avenue Lénine, nettement plus présentable, selon l'ironie mordante de Jonathan Sixou, l'auteur de ce livre « Vivre en ville » que je vous recommande chaudement. Il est publié aux éditions du CERF. Nous allons nous séparer en chanson après avoir remercié Lucas qui a réalisé cette émission, toujours Angelo Branduardi, un titre de 1976 à la Foire de l'Est.
De l'Est, peau de pomme, une petite taupe mon père m'avait acheté. À la foire de l'Est, peau de pomme, une petite taupe mon père m'avait acheté. Soudain la chatte mange la taupe qu'à la foire mon père m'avait acheté. Soudain la chatte mange la taupe qu'à la foire mon père m'avait acheté. À la foire de l'Est, pour deux pommes, une petite taupe mon père m'avait acheté. Soudain la chienne mord la chatte qui mangeait la taupe qu'à la foire mon père m'avait acheté. À la foire de l'Est, pour deux pommes, une petite taupe mon père m'avait acheté. Soudain la trique frappe la chienne qui mordait la chatte qui mangeait la taupe qu'à la foire mon père m'avait acheté. À la foire de l'Est, pour deux pommes, une petite taupe mon père m'avait acheté. Soudain la flamme brûle la trique qui frappait la chienne qui mordait la chatte qui mangeait la taupe qu'à la foire mon père m'avait acheté. À la foire de l'Est, pour deux pommes, une petite taupe mon père m'avait acheté. Qui brûlait la trique, qui frappait la chienne, qui mordait la chatte, qui mangeait la taupe, qu'à la foire mon père m'avait acheté. À la foire de l'Est, pour deux pommes, une petite taupe mon père m'avait acheté. Soudain la bête vient boire la verse, qui ruinait la flamme, qui brûlait la trique, qui frappait la chienne, qui mordait la chatte, qui mangeait la taupe qu'à la foire mon père m'avait acheté. À la foire de l'Est, pour deux pommes, une petite taupe mon père m'avait acheté. Et les gorgeurs frappent et tuent la bête qui buvait la verse, qui ruinait la flamme, qui brûlait la trique, qui frappait la chienne, qui mordait la chatte, qui mangeait la taupe qu'à la foire mon père m'avait acheté. La mort qui saigne les gorgeurs, qui tuait la bête, qui buvait la verse, qui ruinait la flamme, qui brûlait la trique, qui frappait la chienne, qui mordait la chatte, qui mangeait la taupe, qu'à la foire mon père m'avait acheté. À la foire de l'Est, pour deux pommes,
une petite taupe, mon père m'avait acheté. C'est enfin le Seigneur qui emporte l'ange, qui saigne les gorgeurs, qui tuait la bête, qui buvait la perse, qui ruinait la flamme, qui brûlait l'Afrique, qui frappait la chienne, qui mordait la chatte, qui mangeait la coupe, qu'à la fois mon père m'avait acheté. C'est enfin le Seigneur qui emporte l'ange, qui saignait les gorgeurs, qui tuait la bête, qui buvait la perse, qui ruinait la flamme, qui brûlait la frite, qui frappait la chaîne, qui mordait la chatte, qui mangeait la coupe, à la foire mon père m'avait acheté. À la foire de l'Est,